Salammbô de Gustave Flaubert. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 4. Sous les murs de Carthage. Des gens de la campagne, montés sur des ânes ou courant à pied, pâles, essoufflés, fous de peur, arrivèrent dans la ville. Ils fuyaient devant l'armée. En 3 jours, elle avait fait le chemin de Sicca pour venir à Carthage et tout exterminer. On ferma les portes. Les barbares, presque aussitôt, parurent. Mais ils s'arrêtèrent au milieu de l'isthme, sur le bord du lac. D'abord, ils n'annoncèrent rien d'hostile. Plusieurs s'approchèrent avec des palmes à la main. Ils furent repoussés à coups de flèche, tant la terreur était grande. Le matin et à la tombée du jour, des rôdeurs quelquefois erraient le long des murs. On remarquait surtout un petit homme, enveloppé soigneusement d'un manteau et dont la figure disparaissait sous une visière très basse. Il restait pendant de grandes heures à regarder l'aqueduc, et avec une telle persistance qu'il voulait sans doute égarer les Carthaginois sur ses véritables desseins. Un autre homme l'accompagnait, une sorte de géant qui marchait tête nue. Mais Carthage était défendue dans toute la largeur de l'isthme, d'abord par un fossé, ensuite par un rempart de gazon, et enfin par un mur haut de 30 coudées en pierre de taille et à double étage. Il contenait des écuries pour 300 éléphants avec des magasins pour leurs caparaçons, leurs entraves et leur nourriture, puis d'autres écuries pour 4000 chevaux avec les provisions d'orge et les harnachements, et des casernes pour 20 000 soldats avec les armures et tout le matériel de guerre. Des tours s'élevaient sur le second étage, toutes garnies de créneaux, et qui portaient en dehors des boucliers de bronze, suspendus à des crampons. Cette première ligne de murailles abritait immédiatement Malca, le quartier des gens de la marine et des teinturiers. On apercevait des mâts où séchaient des voiles de pourpre, et sur les dernières terrasses des fourneaux d'argile, pour cuire la saumure. Par derrière, la ville étageait en amphithéâtre ses hautes maisons de forme cubique. Elles étaient en pierre, en planches, en galets, en roseaux, en coquillages, en terre battue. Les bois des temples faisaient comme des lacs de verdure dans cette montagne de blocs diversement coloriés. Les places publiques la nivelaient à des distances inégales. D'innombrables ruelles s'entrecroisaient, la coupaient du haut en bas. On distinguait les enceintes des 3 vieux quartiers, maintenant confondus. Elles se levaient çà et là comme de grands écueils, où allongeaient des pans énormes, à demi couverts de fleurs, noircies, largement rayées par le jet des immondices, et des rues passaient dans leurs ouvertures béantes comme des fleuves sous des ponts. La colline de l'Acropole, au centre de Byrsa, disparaissait sous un désordre de monuments. C'étaient des temples à colonnes torses avec des chapiteaux de bronze et des chaînes de métal, des cônes en pierre sèche à bandes d'azur, des coupoles de cuivre, des architraves de marbre, des contreforts babyloniens, des obélisques posant sur leurs pointes comme des flambeaux renversés. Les péristyles atteignaient au fronton. Les volutes se déroulaient entre les colonnades. Des murailles de granit supportaient des cloisons de tuiles. Tout cela montait l'un sur l'autre en se cachant à demi d'une façon merveilleuse et incompréhensible. On y sentait la succession des âges et comme des souvenirs de patries oubliées. Derrière l'acropole, dans des terrains rouges, le chemin des Mappales bordé de tombeaux s'allongeait en ligne droite du rivage aux catacombes. De larges habitations s'espaçaient ensuite dans des jardins, et ce troisième quartier, Mégara, la ville neuve, allait jusqu'au bord de la falaise où se dressait un phare géant qui flambait toutes les nuits. Carthage se déployait ainsi devant les soldats établis dans la plaine. De loin, ils reconnaissaient les marchés, les carrefours. Ils se disputaient sur l'emplacement des temples. Celui de Camon, en face des Sissites, avait des tuiles d'or. Melkart, à la gauche d'Eshmoun, portait sur sa toiture des branches de corail. Tanit, au-delà, arrondissait dans les palmiers sa coupole de cuivre. Le noir Moloch était au bas des citernes, du côté du phare. L'on voyait à l'angle des frontons, sur le sommet des murs, au coin des places, partout, des divinités à têtes hideuses, colossales ou trapues, avec des ventres énormes ou démesurément aplatis, ouvrant la gueule, écartant les bras, tenant à la main des fourches, des chaînes ou des javelots. Et le bleu de la mer s'étalait au fond des rues, que la perspective rendait encore plus escarpée. Un peuple tumultueux du matin au soir les emplissait. De jeunes garçons, agitant des sonnettes, criaient à la porte des bains. Les boutiques de boissons chaudes fumaient. L'air retentissait du tapage des enclumes. Les coqs blancs consacrés au soleil chantaient sur les terrasses. Les bœufs que l'on égorgeait mugissaient dans les temples. Des esclaves couraient avec des corbeilles sur leurs têtes. Et, dans l'enfoncement des portiques, quelques prêtres apparaissaient drapés d'un manteau sombre, nu-pieds, en bonnet pointu. Ce spectacle de Carthage irritait les barbares. Ils l'admiraient, ils l'exécraient. Ils auraient voulu tout à la fois l'anéantir et l'habiter. Mais qu'y avait-il dans le port militaire, défendu par une triple muraille? Puis derrière la ville, au fond de Mégara, plus haut que l'acropole, apparaissait le palais d'Amilcar. Les yeux de Mato à chaque instant s'y portaient. Il montait dans les oliviers, il se penchait, la main étendue au bord des sourcils. Les jardins étaient vides, et la porte rouge à croix noire restait constamment fermée. Plus de 20 fois il fit le tour des remparts, cherchant quelques brèches pour entrer. Une nuit, il se jeta dans le golfe et pendant 3 heures, il nagea tout d'une haleine. Il arriva au bas des mappales, il voulut grimper contre la falaise. Il ensanglanta ses genoux, brisa ses ongles, puis retomba dans les flots et s'en revint. Son impuissance l'exaspérait. Il était jaloux de cette Carthage enfermant Salammbô comme de quelqu'un qui l'aurait possédé. Ses énervements l'abandonnèrent, et ce fut une ardeur d'action folle et continuelle. La joue en feu, les yeux irrités, la voix rauque, il se promenait d'un pas rapide à travers le camp. Ou bien, assis sur le rivage, il frottait avec du sable sa grande épée. Il lançait des flèches aux vautours qui passaient. Son cœur débordait de paroles furieuses. Les salets à colère, comme un char qui s'emporte, disait Spendius. Crie, blasphème, ravage et tue. La douleur s'apaise avec du sang, et puisque tu ne peux assouvir ton amour, gorge ta haine, elle te soutiendra. Mato reprit le commandement de ses soldats. Il les faisait impitoyablement manœuvrer. On le respectait pour son courage, pour sa force surtout. D'ailleurs, il inspirait comme une crainte mystique. On croyait qu'il parlait, la nuit, à des fantômes. Les autres capitaines s'animèrent de son exemple. L'armée bientôt se disciplina. Les Carthaginois entendaient de leur maison la fanfare des buccines qui réglaient les exercices. Enfin, les barbares se rapprochèrent. Il aurait fallu pour les écraser dans l'isthme que 2 armées pussent les prendre à la fois par derrière, l'une débarquant au fond du golfe du Tic et la seconde à la montagne des eaux chaudes. Mais que faire avec la seule légion sacrée, grosse de 6 000 hommes tout au plus? S'ils inclinaient vers l'Orient, ils allaient se joindre aux nomades, intercepter la route de Cyrène et le commerce du désert. S'ils se repliaient sur l'Occident, la Numidie se soulèverait. Enfin, le manque de vivres les ferait tôt ou tard dévaster, comme des sauterelles, les campagnes environnantes. Les riches tremblaient pour leurs beaux châteaux, pour leurs vignobles, pour leur culture. Hannon proposa des mesures atroces et impraticables, comme de promettre une forte somme pour chaque tête de barbare, ou qu'avec des vaisseaux et des machines, on incendia leur camp. Son collègue Giscon voulait au contraire qu'ils fussent payés. Mais, à cause de sa popularité, les anciens le détestaient. Car ils redoutaient le hasard d'un maître et, par terreur de la monarchie, s'efforçaient d'atténuer ce qui en subsistait ou pouvait la rétablir. Il y avait en dehors des fortifications des gens d'une autre race et d'une autre origine inconnue. Tous chasseurs de porcs épics, mangeurs de mollusques et de serpents. Ils allaient dans les cavernes prendre des hyènes vivantes qu'ils s'amusaient à faire courir le soir sur les sables de Mégara, entre les stèles des tombeaux. Leurs cabanes de fange et de varech s'accrochaient à la contre-falaise comme des nids d'hirondelles. Ils vivaient là, sans gouvernement et sans dieu, pêle-mêle, complètement nus, à la fois débiles et farouches, et depuis des siècles exécrés par le peuple à cause de leurs nourritures immondes. Les sentinelles s'aperçurent un matin qu'ils étaient tous partis. Enfin, des membres du Grand Conseil se décidèrent. Ils vinrent au camp, sans collier ni ceinture, en sandales découvertes, comme des voisins. Ils s'avançaient d'un pas tranquille, jetant des saluts au capitaine, ou bien ils s'arrêtaient pour parler aux soldats, disant que tout était fini et qu'on allait faire justice à leurs réclamations. Beaucoup d'entre eux voyaient pour la première fois un camp de mercenaires. Au lieu de la confusion qu'ils avaient imaginée, partout c'était un ordre et un silence effrayants. Un rempart de gazon enfermait l'armée dans une haute muraille, inébranlable au choc des catapultes. Le sol des rues était aspergé d'eau fraîche. Par les trous des tentes, ils apercevaient des prunelles fauves qui luisaient dans l'ombre. Les faisceaux de piques et les panoplies suspendues les éblouissaient comme des miroirs. Ils se parlaient à voix basse. Ils avaient peur, avec leurs longues robes, de renverser quelque chose. Les soldats demandèrent des vivres, en s'engageant à les payer sur l'argent qu'on leur devait. On leur envoya des bœufs, des moutons, des pintades, des fruits secs et des lupins, avec des scombres fumés, de ces scombres excellents que Carthage expédiait dans tous les ports. Mais ils tournaient dédaigneusement autour des bestiaux magnifiques, et, dénigrant ce qu'ils convoitaient, offraient pour un bélier la valeur d'un pigeon, pour trois chèvres le prix d'une grenade. Les mangeurs de choses immondes, se portant pour arbitres, affirmaient qu'on les dupait. Alors ils tiraient leurs glaives, menaçaient de tuer. Des commissaires du Grand Conseil écrivirent le nombre d'années que l'on devait à chaque soldat. Mais il était impossible maintenant de savoir combien on avait engagé de mercenaires, et les anciens furent effrayés de la somme exorbitante qu'ils auraient à payer. Il fallait vendre la réserve du Silphium, imposer les villes marchandes. Les mercenaires s'impatienteraient. Déjà Tunis était avec eux. Et les riches, étourdis par les fureurs d'Annon et les reproches de son collègue, recommandèrent aux citoyens qui pouvaient connaître quelques barbares d'aller le voir immédiatement pour reconquérir son amitié, lui dire de bonnes paroles. Cette confiance les calmerait. Des marchands, des scribes, des ouvriers de l'arsenal, des familles entières se rendirent chez les barbares. Les soldats laissaient entrer chez eux tous les Carthaginois, mais par un seul passage tellement étroit que quatre hommes de front s'y coudoyaient. Spendius, debout contre la barrière, les faisait attentivement fouiller. Mato, en face de lui, examinait cette multitude, cherchant à retrouver quelqu'un qu'il pouvait avoir vu chez Salammbô. Le camp ressemblait à une ville, tant il était rempli de monde et d'agitation. Les deux foules distinctes se mêlaient sans se confondre, l'une habillée de toile ou de laine, avec des bonnets de feutre pareils à des pommes de pin, et l'autre vêtue de fer et portant des casques. Au milieu des valets et des vendeurs ambulants circulaient des femmes de toutes les nations, brunes comme des dattes mûres, verdâtres comme des olives, jaunes comme des oranges, vendues par des matelots, choisies dans les bouges, volées à des caravanes, prises dans le sac des villes, que l'on fatiguait d'amour tant qu'elles étaient jeunes, qu'on accablait de coups lorsqu'elles étaient vieilles, et qui mouraient dans les déroutes au bord des chemins parmi les bagages avec les bêtes de somme abandonnées. Les épouses des nomades balançaient sur leurs talons des robes en poils de dromadaire, carrées et de couleur fauve. Des musiciennes de la Cyrénaïque, enveloppées de gaze violette et les sourcils peints, chantaient accroupies sur des nattes. De vieilles négresses aux mamelles pendantes ramassaient pour faire du feu des fientes d'animal que l'on desséchait au soleil. Les Syracusaines avaient des plaques d'or dans la chevelure, les femmes des Lusitaniens des colliers de coquillages, les Gauloises des peaux de loup sur leur poitrine blanche, et des enfants robustes couverts de vermine, nus, incirconcis, donnaient aux passants des coups dans le ventre avec leur tête, ou venaient par derrière comme de jeunes tigres, les mordre aux mains. Les Carthaginois se promenaient à travers le camp, surpris par la quantité de choses dont ils regorgeaient. Les plus misérables étaient tristes, et les autres dissimulaient leur inquiétude. les soldats leur frappaient sur l'épaule, en les excitant à la gaieté. Dès qu'ils apercevaient quelques personnages, ils l'invitaient à leur divertissement. Quand on jouait au disque, ils s'arrangeaient pour lui écraser les pieds et, au pugilat, dès la première passe, lui fracassaient la mâchoire. Les frondeurs effrayaient les Carthaginois avec leurs frondes, les psylles avec des vipères, les cavaliers avec leurs chevaux. Ces gens d'occupation paisible, à tous les outrages, baissaient la tête et s'efforçaient de sourire. Quelques-uns, pour se montrer braves, faisaient signe qu'ils voulaient devenir des soldats. On leur donnait à fendre du bois et à étriller des mulets. On les bouclait dans une armure et on les roulait comme des tonneaux par les rues du camp. Puis, quand ils se disposaient à partir, les mercenaires s'arrachaient les cheveux avec des contorsions grotesques. Mais beaucoup, par sottise ou préjugés, croyaient naïvement tous les Carthaginois très riches, et ils marchaient derrière eux en les suppliant de leur accorder quelque chose. Ils demandaient tout ce qui leur semblait beau, une bague, une ceinture, des sandales, la frange d'une robe, et, quand le Carthaginois dépouillé, s'écriait « Mais je n'ai plus rien, que veux-tu ?» Il répondait « Ta femme !» D'autres disaient « Ta vie !» Les comptes militaires furent remis au capitaine, lus aux soldats, définitivement approuvés. Alors, ils réclamèrent des tentes. On leur donna des tentes. Puis les polémarques des Grecs demandèrent quelques-unes de ces belles armures que l'on fabriquait à Carthage. Le grand conseil vota des sommes pour cette acquisition. Mais il était juste, prétendaient les cavaliers, que la République les indemnisa de leurs chevaux. L'un affirmait en avoir perdu 3 à tel siège, un autre 5 dans telle marche, un autre 14 dans les précipices. On leur offrit des étalons d'hécatompile. Ils aimèrent mieux l'argent. Puis ils demandèrent qu'on leur payât en argent, en pièces d'argent et non en monnaie de cuir, tout le blé qu'on leur devait, et au plus haut prix, où ils s'étaient vendus pendant la guerre. Si bien qu'ils exigeaient pour une mesure de farine 400 fois plus qu'ils n'avaient donné pour un sac de froment. Cette injustice exaspéra. Il fallut céder pourtant. Alors les délégués des soldats et ceux du grand conseil se réconcilièrent, en jurant par le génie de Carthage et par les dieux des barbares. Avec les démonstrations et la verbosité orientale, ils se firent des excuses et des caresses. Puis les soldats réclamèrent, comme une preuve d'amitié, la punition des traîtres qui les avaient indisposés contre la République. On feignit de ne pas les comprendre. Ils s'expliquèrent plus nettement, disant qu'il leur fallait la tête d'Hannon. Plusieurs fois par jour, ils sortaient de leur camp. Ils se promenaient au pied des murs, ils criaient qu'on leur jetât la tête du suffète, et ils tendaient leur robe pour la recevoir. Le grand conseil aurait faibli, peut-être, sans une dernière exigence plus injurieuse que les autres. Ils demandèrent en mariage, pour leur chef, des vierges choisies dans les grandes familles. C'était une idée de Spendius que plusieurs trouvaient toute simple et fort exécutable. Mais cette prétention de vouloir se mêler au sang punique indigna le peuple. On leur signifia brutalement qu'ils n'avaient plus rien à recevoir. Alors ils s'écrièrent qu'on les avait trompés. Si avant 3 jours leur solde n'arrivait pas, ils iraient eux-mêmes la prendre dans Carthage. La mauvaise foi des mercenaires n'était point aussi complète que le pensaient leurs ennemis. Hamilcar leur avait fait des promesses exorbitantes, vagues, il est vrai, mais solennelles et réitérées. Ils avaient pu croire, en débarquant à Carthage, qu'on leur abandonnerait la ville, qu'ils se partageraient des trésors, et quand ils virent que leur solde à peine serait payé, ce fut une désillusion pour leur orgueil comme pour leur cupidité. Denis, Pyrrhus, Agathoclès et les généraux d'Alexandre n'avaient-ils pas fourni l'exemple de merveilleuses fortunes? L'idéal d'Hercule que les Cananéens confondaient avec le soleil resplendissait à l'horizon des armées. On savait que de simples soldats avaient porté des diadèmes, et le retentissement des empires qui s'écroulaient faisait rêver le Gaulois dans sa forêt de chêne, l'Éthiopien dans ses sables. Mais il y avait un peuple toujours prêt à utiliser les courages. Et le voleur chassé de sa tribu, le parricide errant sur les chemins, le sacrilège poursuivi par les dieux, tous les affamés, tous les désespérés, tâchaient d'atteindre au port où le courtier de Carthage recrutait des soldats. Ordinairement, elle tenait ses promesses. Cette fois pourtant, l'ardeur de son avarice l'avait entraînée dans une infamie périlleuse. Les Numides, les Libyens, l'Afrique entière s'allaient jeter sur Carthage. La mer seule était libre. Elle y rencontrait les Romains, et comme un homme assailli par des meurtriers, elle sentait la mort tout autour d'elle. Il fallut bien recourir à Giscon. Les barbares acceptèrent son entremise. Un matin, ils virent les chaînes du port s'abaisser et trois bateaux plats, passant par le canal de la Ténia, entrèrent dans le lac. Sur le premier, à la proue, on apercevait Giscon. Derrière lui, et plus haute qu'un catafalque, s'élevait une caisse énorme, garnie d'anneaux pareils à des couronnes qui pendaient. Apparaissait ensuite la légion des interprètes, coiffés comme des sphinx, et portant un perroquet tatoué sur la poitrine. Des amis et des esclaves suivaient, tous sans armes, et si nombreux qu'ils se touchaient les épaules. Les trois longues barques, pleines à sombrer, s'avançaient aux acclamations de l'armée qui les regardait. Dès que Giscon débarqua, les soldats coururent à sa rencontre. Avec des sacs, il fit dresser une sorte de tribune et déclara qu'il ne s'en irait pas avant de les avoir tous intégralement payés. Des applaudissements éclatèrent. Il fut longtemps sans pouvoir parler. Puis il blâma les torts de la République et ceux des barbares. La faute en était à quelques mutins qui, par leur violence, avaient effrayé Carthage. La meilleure preuve de ses bonnes intentions, c'était qu'on l'envoyait vers eux, lui, l'éternel adversaire du suffète Hannon. Il ne devait point supposer au peuple l'ineptie de vouloir irriter des braves, ni assez d'ingratitude pour méconnaître leur service. Et Giscon se mit à la paye des soldats, en commençant par les Libyens. Comme ils avaient déclaré des listes mensongères, il ne s'en servit point. Ils défilaient devant lui, par nation, en ouvrant leurs doigts pour dire le nombre des années. On les marquait successivement au bras gauche avec de la peinture verte. Les scribes puisaient dans le coffre béant, et d'autres, avec un stylet, faisaient des trous dans une lame de plomb. Un homme passa qui marchait lourdement à la manière des bœufs. « Monte près de moi, » dit le suffète, suspectant quelque fraude. « Combien d'années as-tu servi ?»« 12 ans, » répondit le Libyen. Giscon lui glissa les doigts sous la mâchoire, car la mentonnière du casque y produisait à la longue 2 callosités. On les appelait des caroubes, et avoir les caroubes était une locution pour dire un vétéran. « Voleur !» s'écria le suffète. « Ce qui te manque au visage, tu dois le porter sur les épaules !» Et lui déchirant sa tunique, il découvrit son dos couvert de gales sanglantes. C'était un laboureur d'hypozarite. Des huées s'élevèrent, on le décapita. Dès qu'il fut nuit, Spendius alla réveiller des Libyens. Il leur dit « Quand les Ligures, les Grecs, les Baléares et les hommes d'Italie seront payés, ils s'en retourneront. Mais vous autres, vous resterez en Afrique. » et part dans vos tribus, et sans aucune défense. C'est alors que la République se vengera. Méfiez-vous du voyage. Allez-vous croire à toutes les paroles? Les deux suffètes sont d'accord. Celui-là vous abuse. Rappelez-vous l'île des ossements et Xantippe, qu'ils ont renvoyé à Sparte sur une galère pourrie. Comment nous y prendre? Demandait-il. Réfléchissez, disait Spendius. Les 2 jours suivants se passèrent à payer les gens de Magdala, de Leptis, d'Hécatompyle. Spendius se répandait chez les Gaulois. On solde les Libyens, ensuite on payera les Grecs, puis les Baléares, les Asiatiques et tous les autres. Mais vous qui n'êtes pas nombreux, on ne vous donnera rien. Vous ne reverrez plus vos patries. Vous n'aurez point de vaisseau. Ils vous tueront pour épargner la nourriture. Les Gaulois vinrent trouver le suffète. Autharite, celui qui l'avait blessé chez Hamilcar, l'interpella. Il disparut, repoussé par les esclaves, mais en jurant qu'il se vengerait. Les réclamations, les plaintes se multiplièrent. Les plus obstinés pénétraient dans la tente du suffète. Pour l'attendrir, il prenait ses mains, lui faisaient palper leurs bouches sans dents, leurs bras tout maigres et les cicatrices de leurs blessures. Ceux qui n'étaient point encore payés s'irritaient. Ceux qui avaient reçu leur solde en demandaient une autre pour leurs chevaux. Et les vagabonds, les bannis, prenant les armes des soldats, affirmaient qu'on les oubliait. À chaque minute, il arrivait comme des tourbillons d'hommes. Les tentes craquaient, s'abattaient. La multitude, serrée entre les remparts du camp, oscillait à grands cris depuis les portes jusqu'au centre. Quand le tumulte se faisait trop fort, Giscon posait un coude sur son sceptre d'ivoire et, regardant la mer, il restait immobile, les doigts enfoncés dans sa barbe. Souvent, Mathos s'écartait pour aller s'entretenir avec Spendius. Puis, il se replaçait en face du suffète, et Giscon sentait perpétuellement ses prunelles comme deux phalariques en flamme darder vers lui. Par-dessus la foule, plusieurs fois, ils se lancèrent des injures, mais qu'ils n'entendirent pas. Cependant, la distribution continuait, et le suffète à tous les obstacles trouvait des expédients. Les Grecs voulurent élever des chicanes sur la différence des monnaies. Il leur fournit de telles explications qu'ils se retirèrent sans murmure. Les nègres réclamèrent de ces coquilles blanches usitées pour le commerce dans l'intérieur de l'Afrique. Il leur offrit d'en envoyer prendre à Carthage. Alors, comme les autres, ils acceptèrent de l'argent. Mais on avait promis aux Baléares quelque chose de meilleur, à savoir des femmes. Le suffète répondit que l'on attendait pour eux toute une caravane de vierges. La route était longue, il fallait encore 6 lunes. Quand elles seraient grasses et bien frottées de benjoin, on les enverrait sur des vaisseaux dans les ports des Baléares. Tout à coup, Zarxas, beau maintenant et vigoureux, sauta comme un bateleur sur les épaules de ses amis et cria. « En as-tu réservé pour les cadavres ?» tandis qu'il montrait dans Carthage la porte de Camon. Au dernier feu du soleil, les plaques d'airain la garnissant de haut en bas resplendissaient. Les barbares crurent apercevoir sur elle une traînée sanglante. Chaque fois que Giscon voulait parler, leurs cris recommençaient. Enfin, il descendit à pas graves et s'enferma dans sa tente. Quand il en sortit au lever du soleil, ses interprètes, qui couchaient en dehors, ne bougèrent point. Ils se tenaient sur le dos, les yeux fixes, la langue au bord des dents et la face bleuâtre. Des mucosités blanches coulaient de leurs narines, et leurs membres étaient raides, comme si le froid pendant la nuit les eût tous gelés. Chacun portait autour du cou un petit lacet de jonc. La rébellion dès lors ne s'arrêta plus. Ce meurtre des Baléares rappelé par Zarxas confirmait les défiances de Spendius. Il s'imaginait que la République cherchait toujours à les tromper. Il fallait en finir. On se passerait des interprètes. Zarxas, avec une fronde autour de la tête, chantait des chansons de guerre. Autharite brandissait sa grande épée. Spendius soufflait à l'un quelques paroles, fournissait à l'autre un poignard. Les plus forts tâchaient de se payer eux-mêmes, les moins furieux demandaient que la distribution continuât. Personne maintenant ne quittait ses armes, et toutes les colères se réunissaient contre Giscon dans une haine tumultueuse. Quelques-uns montaient à ses côtés. Tant qu'ils vociféraient des injures, on les écoutait avec patience. Mais s'ils tentaient pour lui le moindre mot, ils étaient immédiatement lapidés, ou par derrière, d'un coup de sabre, on leur abattait la tête. L'amoncellement des sacs était plus rouge qu'un autel. Ils devenaient terribles après le repas quand ils avaient bu du vin. C'était une joie défendue sous peine de mort dans les armées puniques, et ils levaient leur coupe du côté de Carthage par dérision pour sa discipline. Puis ils revenaient vers les esclaves des finances, et ils recommençaient à tuer. Le mot frappe, différemment dans chaque langue, était compris de tous. Giscon savait bien que la patrie l'abandonnait, mais il ne voulait point, malgré son ingratitude, la déshonorer. Quand ils lui rappelèrent qu'on leur avait promis des vaisseaux, il jura par Moloch de leur en fournir lui-même à ses frais, et, arrachant son collier de pierre bleue, il le jeta dans la foule en gage de serment. Alors les Africains réclamèrent le blé, d'après les engagements du Grand Conseil. Giscon étala les comptes des Sicites, tracés avec de la peinture violette sur des peaux de brebis. Il lisait tout ce qui était entré dans Carthage, mois par mois, jour par jour. Soudain, il s'arrêta, les yeux béants, comme s'il eût découvert entre les chiffres sa sentence de mort. En effet, les anciens les avaient frauduleusement réduits, et le blé, vendu pendant l'époque la plus calamiteuse de la guerre, se trouvait à un taux si bas qu'à moins d'aveuglement, on y pouvait croire. « Parle !» crièrent-ils. « Plus haut !»« Ah, c'est qu'il cherche à mentir, le lâche ! Méfions-nous !» Pendant quelque temps, il hésita. Enfin, il reprit sa besogne. Les soldats, sans se douter qu'on les trompait, acceptèrent comme vrais les comptes des Sicites. Alors, l'abondance où s'était trouvée Carthage les jeta dans une jalousie furieuse. Ils brisèrent la caisse de sycomore. Elle était vide aux trois quarts. Ils avaient vu de telles sommes en sortir qu'ils la jugeaient inépuisable. Giscon en avait enfoui dans sa tente. Ils escaladèrent les sacs. Mato les conduisait, et comme il criait « L'argent ! L'argent !» Giscon à la fin répondit « Que votre général vous en donne !» Il les regardait en face sans parler, avec ses grands yeux jaunes et sa longue figure plus pâle que sa barbe. Une flèche, arrêtée par les plumes, se tenait à son oreille, dans son large anneau d'or, et un filet de sang coulait de sa tiare sur son épaule. À un geste de Mato, tous s'avancèrent. Il écarta les bras. Spendius, avec un nœud coulant, l'étreignit au poignet. Un autre le renversa, et il disparut dans le désordre de la foule qui s'écroulait sur les sacs. Ils saccagèrent sa tente. On n'y trouva que les choses indispensables à la vie. Puis, en cherchant mieux, trois images de Tanit et dans une peau de singe, une pierre noire tombée de la lune. Beaucoup de Carthaginois avaient voulu l'accompagner. C'étaient des hommes considérables, et tous du parti de la guerre. On les entraîna en dehors des tentes, et on les précipita dans la fosse aux immondices. Avec des chaînes de fer, ils furent attachés par le ventre à des pieux solides, et on leur tendait la nourriture à la pointe d'un javelot. Autharite, tout en les surveillant, les accablait d'invectives, mais comme ils ne comprenaient point sa langue, ils ne répondaient pas. Le Gaulois, de temps à autre, leur jetait des cailloux au visage pour les faire crier. Dès le lendemain, une sorte de langueur envahit l'armée. À présent que leur colère était finie, des inquiétudes les prenaient. Mato souffrait d'une tristesse vague. Il lui semblait avoir indirectement outragé Salammbô. Ses riches étaient comme une dépendance de sa personne. Ils s'asseyaient la nuit au bord de leur fosse, et ils retrouvaient dans leurs gémissements quelque chose de la voix dont son cœur était plein. Cependant, ils accusaient, tous, les Libyens, qui seuls étaient payés. Mais, en même temps que se ravivaient les antipathies nationales avec les haines particulières, on sentait le péril de s'y abandonner. Les représailles, après un pareil attentat, seraient formidables. Donc il fallait prévenir la vengeance de Carthage. Les conciliabules, les harangues n'en finissaient pas. Chacun parlait, on n'écoutait personne. Et Spendius, ordinairement si loquace, à toutes les propositions secouait la tête. Un soir, il demanda négligemment à Mato s'il n'y avait pas des sources dans l'intérieur de la ville. « Pas une !» répondit Mato. Le lendemain, Spendius l'entraîna sur la berge du lac. « Maître, dit l'ancien esclave, si ton cœur est intrépide, je te conduirai dans Carthage. « Comment ? Répétait l'autre en haletant. Jure d'exécuter tous mes ordres, de me suivre comme une ombre. » Alors Mato, levant son bras vers la planète de Chabar, s'écria « Par Tanit, je le jure !» Spendius reprit « Demain, après le coucher du soleil, tu m'attendras au pied de l'aqueduc, entre la 9e et la 10e arcade. Emporte avec toi un pic de fer, un casque sans aigrette et des sandales de cuir. » L'aqueduc dont il parlait traversait obliquement l'isthme entier, ouvrage considérable, agrandi plus tard par les Romains. Malgré son dédain des autres peuples, Carthage leur avait pris gauchement cette invention nouvelle, comme Rome elle-même avait fait de la galère punique, et cinq rangs d'arcs superposés, d'une architecture trapue, avec des contreforts à la base et des têtes de lion au sommet, aboutissait à la partie occidentale de l'acropole, où il s'enfonçait sous la ville pour déverser presque une rivière dans les citernes de Mégara. À l'heure convenue, Spendius y trouva Mato. Il attacha une sorte de harpon au bout d'une corde, le fit tourner rapidement comme une fronde, l'engin de fer s'accrocha, et ils se mirent l'un derrière l'autre à grimper le long du mur. Mais quand ils furent montés sur le premier étage, le crampon, chaque fois qu'ils le jetaient, retombait. Il leur fallait, pour découvrir quelques fissures, marcher sur le bord de la corniche. À chaque rang des arcs, ils la trouvaient plus étroite. Puis la corde se relâcha. Plusieurs fois, elle faillit se rompre. Enfin, ils arrivèrent à la plateforme supérieure. Spendius, de temps à autre, se penchait pour tâter les pierres avec la main. « C'est là, » dit-il, « commençons. » Et pesant sur les pieux qu'avait apportés Mato, ils parvinrent à disjoindre une des dalles. Ils aperçurent, au loin, une troupe de cavaliers galopant sur des chevaux sans bride. Leurs bracelets d'or sautaient dans les vagues draperies de leurs manteaux. On distinguait en avant un homme couronné de plumes d'autruche et qui galopait avec une lance à chaque main. « Narhavas !» s'écria Mato. « Qu'importe !» reprit Spendius. Et il sauta dans le trou qu'il venait de faire en découvrant la dalle. Mato, par son ordre, essaya de pousser un des blocs, mais, faute de place, il ne pouvait remuer les coudes. « Nous reviendrons !» dit Spendius. « Mets-toi devant !» Alors ils s'aventurèrent dans le conduit des eaux. Ils en avaient jusqu'au ventre. Bientôt ils chancelèrent, et il leur fallut nager. Leurs membres se heurtaient contre les parois du canal trop étroit. L'eau coulait presque immédiatement sous la dalle supérieure. Ils se déchiraient le visage, puis le courant les entraîna. Un air plus lourd qu'un sépulcre leur écrasait la poitrine, et la tête sous les bras, les genoux l'un contre l'autre, allongés tant qu'ils pouvaient, ils passaient comme des flèches dans l'obscurité, étouffant, râlant, presque mort. Soudain, tout fut noir devant eux, et la vélocité des eaux redoublait. Ils tombèrent. Quand ils furent remontés à la surface, ils se tinrent pendant quelques minutes étendus sur le dos, à humer l'air, délicieusement. Des arcades, les unes derrière les autres, s'ouvraient au milieu de larges murailles séparant des bassins. Tous étaient remplis, et l'eau se continuait en une seule nappe dans la longueur des citernes. Les coupoles du plafond laissaient descendre par leur soupirail une clarté pâle qui étalait sur les ondes comme des disques de lumière, et les ténèbres alentour, s'épaississant vers les murs, les reculaient indéfiniment. Le moindre bruit faisait un grand écho. Spendius et Mato se remirent à nager, et, passant par l'ouverture des arcs, ils traversèrent plusieurs chambres à la file. Deux autres rangs de bassins plus petits s'étendaient parallèlement de chaque côté. Ils se perdirent, ils tournaient, ils revenaient. Enfin, quelque chose résista sous leurs talons. C'était le pavé de la galerie qui longeait les citernes. Alors, s'avançant avec de grandes précautions, ils palpèrent la muraille pour trouver une issue. Mais leurs pieds glissaient. Ils tombaient dans les vasques profondes. Ils arrivaient à remonter, puis ils retombaient encore, et ils sentaient une épouvantable fatigue, comme si leurs membres en nageant se fussent dissous dans l'eau. Leurs yeux se fermèrent, ils agonisaient. Spendius se frappa la main contre les barreaux d'une grille. Ils la secouèrent, elle céda, et ils se trouvèrent sur les marches d'un escalier. Une porte de bronze le fermait en haut. Avec la pointe d'un poignard, ils écartèrent la barre que l'on ouvrait en dehors. Tout à coup, le grand air pur les enveloppa. La nuit était pleine de silence et le ciel avait une hauteur démesurée. Des bouquets d'arbres débordaient sur les longues lignes des murs. La ville entière dormait. Les feux des avant-postes brillaient comme des étoiles perdues. Spendius, qui avait passé 3 ans dans l'ergastule, connaissait imparfaitement les quartiers. Mato conjectura que pour se rendre au palais d'Amilcar, il devait prendre sur la gauche, en traversant les Mappales. « Non, » dit Spendius, « conduis-moi au temple de Tanit. » Mâtho voulut parler. « Rappelle-toi !» fit l'ancien esclave. Et levant son bras, il lui montra la planète de Chabar qui resplendissait. Alors Mâtho se tourna silencieusement vers l'acropole. Il rampait le long des clôtures de nopal qui bordaient les sentiers. L'eau coulait de leurs membres sur la poussière. Leurs sandales humides ne faisaient aucun bruit. Spendius, avec ses yeux plus flamboyants que des torches, à chaque pas fouillait les buissons. Et il marchait derrière Mâtho, les mains posées sur les deux poignards qu'il portait au bras, tenus au-dessous de l'aisselle par un cercle de cuir. Fin du chapitre 4.